Place Info.
Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
La France était-elle au courant en amont du raid qui a permis d'éliminer ce week-end le chef du groupe État islamique en Syrie ?
Alors, on a toujours des discussions avec nos alliés. Là, ce qui compte, c'est que c'est une étape positive. Je n'ai pas à vous dire ici, vous imaginez bien, les échanges qui ont lieu entre les forces armées. D'ailleurs, c'est le principe, c'est que ce sont des échanges qui n'ont pas... Vocation
à être donnée à 8h33 à la radio et à la télé.
Ce qu'on voit, c'est que c'est positif, parce que une organisation terroriste contre laquelle on se bat, on est toujours, faut qu'on voit positivement le fait que ses leaders soient maintenant arrêtés, enfin, en tout cas en incapacité de nuire plus avant. Maintenant, il faut quand même avoir en tête que ce combat contre Daesh n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de combattants. On sait que c'est des organisations qui sont très mouvantes et qui donc peuvent très bien se retrouver un leader ou en tout cas des velléités d'organisation rapidement. Il n'y a plus d'État islamique au sens géographique, mais on sait que notamment en Syrie et en Irak, il y a encore présence de combattants. C'est pour ça qu'on va réunir la coalition contre Daesh, c'est pour ça qu'on va...
Amélie Montchalin, d'un mot quand même, pour reprendre la question de Marc. C'est simple. Effectivement, Donald Trump a remercié la Turquie, a remercié la Russie et d'autres pays. Est-ce qu'encore une fois, sans nous révéler un secret d'État, la France était informée de cette opération ?
Florence Parly a fait des déclarations. La France, elle l'a dit, c'est une question sans objet puisque nous n'avons pas participé à l'opération. Ensuite, il y a des discussions, des informations, ça c'est autre chose, mais nous n'étions pas dans l'équipe qui a mené ce raid. C'est des choses qui sont tout à fait publiques. J'ai pas de révélation à vous faire sur le sujet. Ce qui compte pour moi, c'est que cette coalition contre Daesh, ça fait 5 ans. 5 ans qu'un certain nombre de pays mènent une lutte pied à pied sur le terrain. Parce qu'on sait que c'est dans ces territoires, notamment en Syrie, d'où sont partis beaucoup de projets d'attentats à travers le monde entier. On a aussi beaucoup d'Européens qui sont allés lutter sur place. Et donc cette coalition contre Daesh, à la fois parce qu'il y a eu cette offensive turque et parce que maintenant nous avons ce fait nouveau, il faut qu'elle puisse se réunir. Et donc notamment, il y a beaucoup de réunions de cette mise à défense et c'est quelque chose qui est essentiel à tenir parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu cet événement important hier que les choses sont finies. Et malheureusement pour nos concitoyens, c'est un combat qui doit encore durer parce que nous ne sommes pas arrivés au bout de cette lutte contre ceux qui agitent les menaces terroristes à travers le monde.
Vous n'avez pas l'ombre d'un doute, Amélie de Montchalin, sur le fait que c'est bien le chef du groupe État islamique qui a été tué ce week-end en Syrie. La Russie, notamment, fait part de doutes et dit qu'elle n'a pas reçu les résultats des tests ADN. La position officielle de la France, c'est bien de s'aligner sur les mots de Donald Trump hier.
La position officielle, vous l'avez entendu par les mots de Florence Parly, par les mots de Jean-Yves Le Drian, par les mots du président de la République, c'est de considérer qu'effectivement, c'est une étape importante, c'est un leader terroriste.
Vous n'avez pas de raison de douter de la parole de Donald Trump ?
Aujourd'hui, moi, ici, devant vous, non. Maintenant, si des gens ont des doutes, ils auront les possibilités, j'imagine, d'échanger sur ces questions.
Est-ce que, selon vous, Donald Trump a raison quand il affirme qu'aujourd'hui, le monde est plus sûr ? Ou au contraire, faut-il craindre, effectivement, et bien un acte de vengeance et la résilience de Daesh ?
C'est ce que je vous dis, c'est une étape importante dans la lutte contre cette espèce d'hydre, comme l'appelle le président terroriste, dont on sait que ce mouvement et ce leader, quand même, on avait beaucoup d'idées qui étaient très nocives et très dangereuses pour à la fois la région où il était et nous-mêmes, puisque c'est de cette région et de son organisation que beaucoup d'attentats en Europe ont été perpétrés. Ce qui est important, c'est que, oui, c'est plus sûr parce qu'il y a quelqu'un de moins. Maintenant, est-ce que on voit bien, les instructions sont de vigilance encore accrue parce que les vengeances sont toujours possibles et parce que, je le dis, le mouvement terroriste en lui-même n'est pas éteint. Et c'est pas parce que vous coupez la tête du mouvement qu'en dessous, les combattants disparaissent. Donc c'est pour ça que c'est un combat. C'est une guerre que nous menons d'ailleurs dans des fronts différents. Il y a aussi une guerre contre les terroristes au Sahel, au Mali. Donc on voit bien que la menace terroriste perdure et qu'il nous faut une vigilance, une mobilisation sans faille et collective.
C'est une victoire.
Et mon message, vraiment, c'est que cette coalition contre Daesh, c'est pas parce qu'on a eu dans les dernières semaines des mouvements qu'il faut se dire qu'il faut y mettre un terme. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble.
C'est une victoire que vous mettez au crédit de Donald Trump, une victoire personnelle pour lui.
Je ne vais pas compter en victoire. Vous savez, le terrorisme, quand il n'y en aura plus, on pourra tous se dire qu'on a gagné. La France prend énormément de risques, vous le savez, dans beaucoup d'autres zones du monde. Et je ne pense pas qu'on soit pas en termes de victoire pour les uns ou pour les autres. C'est une étape importante, évidemment. Évidemment qu'il y ait des militaires, des soldats ont pris des risques pour mener cette opération et qu'ils étaient américains. C'est évident. Maintenant, je vous dis, il y a encore beaucoup à faire. Et Donald Trump se félicite d'une opération. Et nous, nous avons à continuer avec cette coalition le mouvement.
Amélie de Montchalin, nous sommes 3 ans après le référendum britannique sur le Brexit. Nous sommes également le 28 octobre, c'est-à-dire à 3 jours de la dernière date qui avait été choisie pour que nos voisins quittent l'Union européenne. Est-ce que vous savez quand va se faire le Brexit ?
Alors, je ne sais pas vous dire quand va se faire le Brexit.
Il se fera.
Un jour,
ça, c'est une certitude
un
maintenant.
Jour, je crois qu'il sera bon pour tout le monde. Et je crois que c'est comme cela que nous travaillons maintenant depuis quelques mois, quelques années, que nous puissions à la fois respecter le désir souverain du peuple britannique qui s'est exprimé par un référendum en 2016, qui est de dire nous voulons quitter les instances politiques de l'Union européenne et nous travaillons d'arrache-pied pour que cela se fasse de manière ordonnée.
Il n'y a plus de doute sur le fait que le Brexit aura lieu. Il n'y a plus l'ombre d'un doute là-dessus.
Alors, j'ai à la fois pas de doute. Maintenant, de manière souveraine, le Royaume-Uni peut politiquement décider qu'il veut rester dans l'Union européenne. C'est
par
toujours son droit.
Quel biais ?
Ça s'appelle la révocation de l'article 50. Le Premier ministre britannique peut prendre son téléphone, appeler à Bruxelles et dire « j'arrête tout ».
Mais vous le sentez prêt à faire ça,
non,
Boris Johnson ?
Je vous dis
en
pas,
ce moment, pas trop.
Non, mais je dis pas que c'est une... Mais je dis, il faut toujours avoir en tête que c'est une décision souveraine des Britanniques. Nous sommes là parce qu'ils nous ont demandé souverainement de faire des choses et ils ont à tout moment la possibilité de dire non. Ce qui est important, c'est que pour les Britanniques, moi j'aimerais avoir ce matin quand même un petit mot, j'allais dire d'amitié. Le pays est divisé en deux depuis maintenant 3 ans. Il y a une impasse politique, on le sent très forte, parce que entre le peuple britannique, entre le gouvernement, entre le Parlement, c'est pas du tout aligné. On est sur un triangle d'incompatibilité. Ce que pensent les uns n'est pas compatible avec ce que pensent les autres. Et donc nous devons, à la fois pour le peuple britannique et pour tous les Européens, nous devons de la clarté. Et donc tout ce qu'on fait en ce moment, c'est d'essayer de nous organiser avec des échéances, des scénarios plus clairs. Parce que sinon, plus personne n'y comprend rien, et c'est ni bénéfique pour les Européens, ni bénéfique pour les Britanniques. Donc nous avions cette date du 31 octobre, elle a d'ailleurs permis à ce que vous avez vu, on ait un nouvel accord qui soit sur la table, ce qui était quand même quelque chose d'important pour sortir de l'impasse. Et maintenant nous avons dit, soit cet accord est ratifié rapidement, et c'est la volonté du Parlement qui s'exprime dans les prochaines heures de travailler sur cet accord, et on donnera le temps nécessaire pour le faire. Soit, et c'est ce qui s'est plutôt passé ce week-end, les partis politiques veulent organiser des élections. C'est un fait politique majeur. Et là aussi, les Européens, de manière unie, eh bien, devront probablement se dire qu'il faut donner plus de temps.
Et on va poursuivre, si vous voulez bien, dans un instant, pardon pour ce suspense absolument insoutenable sur l'avenir du Brexit, mais il est 9h20. Amélie de Montchalin et Soizigbourg vient de nous rejoindre pour le rappel de l'actualité.
Un appel à la plus grande prudence. Le ministère de l'Intérieur diffuse une note interne après la mort d'Aboubacar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Le message alerte sur les risques de vengeance et demande aux différents services une vigilance accrue. Si vous devez prendre le train aujourd'hui dans l'Ouest pour Poitiers ou Nantes, par exemple, vérifiez bien s'il sera en service. Un TGV sur 3 en circulation seulement sur l'axe atlantique. Climat social toujours très tendu à la SNCF. La grève ne s'arrêtera que quand la direction daignera discuter, prévient Sudrail sur France Info. Un repenti de la mafia devant la justice. Claude Chaussin, ancien parrain de l'organisation Corse Brise de Mer, jugé pour le meurtre en 2008 de Richard Casanova, figure du grand banditisme. Claude Chaussin, sous contrôle judiciaire depuis 8 ans, nie en être l'auteur. Et puis le classico en faveur du PSG. Les Parisiens ont croqué les Marseillais 4-0 hier. 20e match consécutif sans défaite pour les hommes de Thomas Tuchel qui compte maintenant 8 points d'avance sur son dauphin Nantes.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, toujours avec Jean-Jérôme Bertolus et toujours avec le casse-tête du Brexit.
Alors, en se prononçant pour des nouvelles élections, est-ce que les Britanniques vous donnent une raison, à vous, ministre en charge des affaires européennes, à la France, de donner effectivement un nouveau report pour le Brexit au 31 janvier, comme le veulent une majorité de pays ?
Écoutez, ça fait exactement maintenant 6 mois que nous disons que si un fait politique majeur se produit au Royaume-Uni, un deuxième référendum, un changement de Premier ministre ou des élections, évidemment, les Européens, parce que nous ne sommes pas dans l'ingérence et que nous ne sommes pas dans l'indifférence, nous n'allons pas nous opposer à ce qu'une clarification démocratique puisse avoir lieu. Au fond, pourquoi, si on veut expliquer pourquoi on est dans cette situation où je pense que beaucoup de Français et beaucoup d'Européens ne comprennent plus grand-chose, c'est que entre ce qu'est la majorité parlementaire, ce qui est le Premier ministre et ce que pensent les Britanniques dans leur ensemble, il n'y a plus d'alignement. Et donc c'est une situation très particulière, c'est-à-dire que vous avez vu Boris Johnson a négocié avec les Européens un accord qui répondait à un certain nombre de questions, qui tiennent nos lignes rouges, notamment sur le fait que nous aurons une relation future équilibrée et loyale, c'est des choses très importantes. Il arrive avec un nouvel accord, on peut se dire, au fond, que sa majorité va le suivre. et ils n'arrivent pas pour l'instant à étudier cet accord. Donc pour nous, ce qui compte, c'est de la clarté. Ce sont des échéances. C'est qu'effectivement, s'il y a des élections qui se profilent, et nous avons vu que dans le week-end, au fond, cette demande exprimée par les Européens de dire « on peut vous donner du temps, mais on veut du temps justifié » a amené un certain nombre de leaders politiques britanniques à annoncer qu'ils soutenaient des élections.
Mais Amélie de Montchalin, pour que ce soit clair justement, pour la France, la perspective d'un no deal, d'une sortie brutale de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, n'est pas forcément la pire des solutions par rapport à cette incertitude qui perdure.
Mais le no deal, la sortie sans accord, c'est le chaos juridique. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les accords juridiques qui relient le Royaume-Uni et l'Europe tombent. Donc c'est une situation, on s'y est préparé, on a mis beaucoup de choses, ça secouera si ça se produit comme ça. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que parce que nous avons fixé depuis des mois et des mois le fait que si des élections, si un référendum, si un changement de Premier ministre, bref, si une clarification politique se produit, nous aurons à en tenir compte.
Donc la France n'est plus hostile sur le principe.
On n'a jamais été hostile à l'extension.
Un report du Brexit de combien de temps ? Jusqu'à fin janvier, comme le dit ce matin une source à l'Élysée, c'est ça ? Trois mois de plus ?
Aujourd'hui, c'est la demande qui a été faite par écrit, en fonction d'une loi qui a été votée il y a quelques semaines, disant « on voudrait fin janvier ». Ce que nous disons depuis des semaines et des semaines, c'est pas le temps pour le temps qui compte. Le temps lui-même ne dissoudra pas la complexité de la question. Ce qu'il faut, c'est du temps avec un scénario, des justifications, pour que et les Britanniques et les Européens sachent que s'il y a quelques semaines, quelques mois en plus, c'est pas pour se dire qu'on repousse encore les décisions difficiles, mais c'est parce qu'on se met en position de clarifier les choses.
Mais le 31 janvier, c'est raisonnable ? Ça reste une aujourd'hui, date butoir qui vous semble...
Vous savez, il y a des discussions qui se poursuivent à Bruxelles, les chefs d'État sont consultés, donc la décision n'est pas prise. Mais aujourd'hui, si on nous annonce des élections entre le 9 décembre, le 5 décembre, le 12 décembre, il y a beaucoup de scénarios, je ne dis pas que ça va être simple pour arriver à ce qu'elles se produisent. Mais on voit beaucoup, il y a des grandes discussions. Vous imaginez que c'est des élections début décembre. C'est pas complètement aberrant d'avoir quelques semaines ensuite pour que cette nouvelle majorité puisse étudier l'accord qui est sur la table, poser du coup une ratification et qu'on puisse avancer.
Et j'ajoute une dernière question avant d'en venir au cas de Thierry Breton, si vous voulez bien, proposé par la France à la Commission européenne. Si jamais les anti-Brexit gagnaient les élections britanniques, il se passe quoi ? On retourne à la case départ ?
Eh bien, c'est là où...
On en revient à la première question tout à l'heure.
Oui, c'est là où il peut se passer un deuxième référendum, il peut y avoir des décisions qui soient prises. Vraiment, je pense qu'il faut que les Français comprennent bien. C'est un sujet qui nous concerne, nous Français, mais pas totalement. C'est un choix souverain des Britanniques. C'est pas à Paris, c'est pas à Bruxelles qu'on trouvera une solution et qu'on décidera pour les Britanniques. Vous savez, l'Europe s'est construite sur le fait que la souveraineté nationale était clé. C'est pour ça qu'on parle d'un état de droit. C'est pour ça qu'on respecte...
La souveraineté avant tout, ça veut dire que l'hypothèse d'un deuxième référendum, elle est toujours également sur la table, mais dans toute la palette des solutions possibles.
C'est leur choix. Ce n'est pas à moi, ministre française, d'avoir un avis sur ce que, politiquement, dans le cadre de la Constitution britannique, les institutions pourraient décider. Vous imaginez le risque ? Sinon, faisons l'effort inverse. Un jour, vous avez des difficultés en France sur telle ou telle question, puis vous auriez une ministre étrangère qui dit « Ah ben moi, je pense que les Français, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça ». Donc, c'est un choix souverain, c'est un référendum qui amène des négociations qui se sont produites depuis 3 ans. On travaille pour que ça soit organisé. Et je vous dis, on n'est ni dans l'ingérence, ni dans l'indifférence. Il y a un moment donné, il faut qu'on prenne en compte les faits politiques. Et donc, on a, nous, un objectif, un principe clair, c'est il nous faut de la clarté, il nous faut un scénario. Le temps pour le temps ne suffit pas.
Jean-Jérôme Bertolus.
En termes de clarté, effectivement, après le camouflet subi par la France, par le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, vous avancez maintenant la candidature de l'industriel Thierry Breton. Écoutons les doutes de Yannick Jadot, c'était cette semaine sur BFM.
On va avoir un souci de conflit d'intérêts, y compris, j'ai cru comprendre que Thierry Breton était encore actionnaire de son entreprise, donc il va piloter le numérique, les subventions publiques, notamment qui vont à son entreprise dont il est actionnaire. Donc ça risque probablement d'amener à un redécoupage de son portefeuille.
Thierry Breton va être auditionné à la mi-novembre par ce que l'on appelle la commission des affaires juridiques au Parlement européen. Il va être passé à la paille de fer sur les conflits d'intérêts. Mais vous êtes quand même confiante ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, je trouve qu'il y a un procès un peu hallucinant depuis quelques jours qui consiste à dire que quand on est compétent dans un domaine, il faudrait surtout pas qu'on s'en occupe au niveau européen. Et il y a derrière toutes ces affaires l'idée que parce qu'on a travaillé dans un secteur, parce qu'on en connaît... les détails, les enjeux.
Parce qu'il y a des allers-retours entre public et privé.
Parce qu'on considère que la compétence Moi, je considère que la compétence doit primer. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui sont les questions de potentiel conflit d'intérêts. Si Thierry Breton a, à la Commission européenne, à s'occuper de sujets spécifiques liés à l'entreprise qu'il dirigeait auparavant. Dans tous les pays d'Europe...
En l'occurrence, il serait en charge du numérique, donc on peut supposer...
Oui, mais dans tous les pays d'Europe, il y a des systèmes, qui s'appellent les systèmes de déport, qui disent que, dans le cas particulier, par exemple, de la société Atos, dont il était le dirigeant, eh bien, ces dossiers-là, s'ils ont... à un moment donné, à être connu par la Commission européenne, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe.
Est-il exact, Amélie de Montchalin, qu'il est toujours actionnaire de son entreprise? Et si oui, souhaitez-vous qu'il revende ses actions avant l'audition devant le Parlement?
Il faut reprendre les choses. Il y a une commission donc qui s'appelle la commission jury qui va lui poser un certain nombre de questions par écrit. Il va devoir formuler un certain nombre de documents, expliquer comment il s'organise pour se mettre dans une situation où ces questions ne se posent pas. Il y a plein de façons différentes. Il peut faire gérer les choses par quelqu'un d'autre. Il peut les vendre. Il y a plein de façons. C'est à lui de présenter ce qu'il va faire. On échange et on se parle. Je vous avoue que j'échange plus sur les questions qui relèvent de l'industrie européenne, de comment on crée de la souveraineté, comment on se protège face à la Chine et aux États-Unis dans les domaines du numérique et de la défense. C'est plutôt de ça qu'on parle ensemble. Ensuite, ces questions sont des questions personnelles. Il va s'organiser. Et vous imaginez bien qu'il a déjà eu à faire face à ces mêmes questions quand il est devenu ministre de l'économie. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à l'époque. Et puis ensuite, ça s'est très bien organisé. Les choses n'ont jamais été polémiques. Et donc, je pense qu'il a tout à fait les décisions et les capacités de s'organiser.
Après le vote massivement négatif pour Sylvie Goulard, vous aviez parlé, vous, Amélie de Montchalin, d'une crise majeure en Europe, d'une crise de confiance envers les institutions, c'est refermé? La parenthèse est refermée?
Non, elle n'est pas refermée. C'est pour ça que Ursula von der Leyen travaille beaucoup avec le Parlement. Et au-delà des questions des commissaires, c'est au fond la capacité qu'elle a au Parlement de faire passer son programme, son projet. Son projet, c'est celui des chefs d'État, c'est celui que les citoyens ont d'ailleurs exprimé lors des élections, c'est s'occuper de la transition climatique, c'est s'occuper de notre capacité à créer des emplois, c'est s'occuper d'avoir une voix forte dans le monde, on vient de le voir avec les sujets en Turquie, en Syrie, il faut que l'Europe puisse peser, pas juste parler. Et donc, la crise, au fond, qu'on doit résoudre, mais qu'on est en train de résoudre petit à petit, c'est recréer de la confiance entre les chefs d'État et de gouvernement, la Commission et le Parlement, pas pour juste se dire qu'on est tous des amis et qu'on veut passer nos vacances ensemble, c'est pas ça le sujet. C'est comment on apporte des résultats aux citoyens européens. On a fait des promesses pendant la campagne, on s'est organisé pour poser sur la table des propositions concrètes. Comment on avance? Comment les citoyens européens s'y retrouvent? Et donc, cette fameuse crise dont je parlais, c'est que il y a, au-delà des sujets de personne, une confiance nouvelle. Pourquoi? Parce que le paysage politique européen a été chamboulé. Pourquoi? Parce que les citoyens européens ont fait des choix nouveaux. Il n'y a plus juste la droite et la gauche européenne. Il y a aussi le centre progressiste, le parti Renaissance. Mmh. Et puis, il y a les Verts qui portent une ambition très forte.
Il y a un plan C, si jamais Thierry Breton est rejeté?
Non, il n'y a pas de plan
non,
C.
Non, c'est
parce
ça
que,
ou rien.
Non, mais parce que, attendez, vous imaginez bien que si on envoie pour s'occuper d'industrie, de défense,
là, cette fois, vous
défense,
êtes sûr de votre coup, excusez-moi
de
poser la question comme ça, mais...
Un homme qui a travaillé dans ces secteurs, qui a été un entrepreneur...
On nous a dit les mêmes arguments, quasiment avec d'autres arguments, mais on était certains que ça allait passer pour Sylvie Goulard.
Mais aujourd'hui, on y travaille. Je
là,
peux
c'est
vous
lui
dire
ou rien.
Aujourd'hui que si, quand on présente un candidat de ce niveau de compétences, d'expérience, qui a été ministre, qui a des expériences d'élu...
Il fallait peut-être le présenter la première fois, alors.
Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a sur la table. Je ne vais pas refaire ni le passé, ni de politique fiction. C'est, en général, c'est dangereux. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille. Toutes les questions sont toujours légitimes à être posées. Il faut que quand on y apporte des réponses tout aussi légitimes, elles puissent être entendues. Donc c'est ça qui va se passer la prochaine semaine.
On va évoquer dans quelques instants les dernières annonces d'Emmanuel Macron chez nos confrères ce matin d'RTL. Avec vous, Amélie de Montchalin, 8h51. D'abord l'essentiel avec Soizic Bourg.
30% des trains roulent aujourd'hui sur l'axe Atlantique. La grève à la SNCF joue les prolongations en pleine vacances de la Toussaint. La direction déplore une situation jusqu'au boutiste qui pénalise les clients. Un jeune homme abattu par balle hier à Marseille, un autre blessé. Le procureur de la République évoque un probable règlement de compte. Depuis le début de l'année, 10 personnes sont mortes dans ces circonstances dans les Bouches-du-Rhône. Des taux de chloroforme 30 fois supérieurs aux doses autorisées. Voilà ce qu'ont respiré une trentaine d'agents d'une société d'analyse immobilière, ALM Environnement. France Info vous le révèle. Ce matin, les salariés portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon eux, leur employeur ne les a pas suffisamment protégés. Les pompiers perdent du terrain en Californie face aux feux de forêt qui ravagent le nord de l'État. 180 000 personnes sommées d'évacuer. Les incendies contenus à seulement 10%. Et puis au moins deux poids lourds au Masters 1000 de Paris-Bercy. Peut-être trois. Raphaël Nadal et Novak Djokovic. Roger Federer, lui, doit décider aujourd'hui si oui ou non il participe au tournoi.
France Info. Et tout est plus clair.
Amélie de Montchalin, Emmanuel Macron va rencontrer dans un peu plus d'une heure les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman, alors qu'un sondage publié hier par le journal du dimanche nous apprenait que les trois quarts des Français souhaitaient l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. 80% des Français estiment que notre modèle de laïcité est en danger. Est-ce que ces chiffres vous ont surpris ?
Ils sont... Surtout, ils interrogent sur, au fond, ce que les Français vivent dans leur quotidien et le lien qu'ils ont à cette loi de 1905 sur la laïcité. La loi de 1905, pour moi, c'est un socle, c'est une richesse qui nous dit que nous pouvons croire ou ne pas croire dans notre pays et que l'État est neutre. Et que donc, au fond, nous avons une liberté de conscience qui est garantie par cette loi, puisque l'État ne prend pas position pour ou contre les croyances individuelles que nous pourrions chacun avoir.
Si 80% des Français considèrent que la laïcité est en danger, c'est qu'il y a au minimum un problème de perception de cette loi, ou alors un problème avec cette loi, non ?
Il y a deux choses. Il y a la question de la laïcité.
Au sens où il faudrait la réformer.
Et ensuite, il y a la question du communautarisme. Et ensuite, encore beaucoup plus loin, il y a la question du terrorisme, des actes violents qui sont l'acte d'islamistes, pas des pratiquants de l'islam qui ont une vision, j'allais dire, positive, mais d'islamistes qui utilisent la religion, en dévoient et font des actes extrêmement violents. Sur le communautarisme, c'est un sujet différent, mais c'est un sujet sur lequel je pense que nous avons à apporter beaucoup plus d'actions visibles, tangibles aux Français. Ça fait 2 ans qu'énormément de choses se passent à bas bruit, se passent pour fermer des institutions qui, au fond, s'éloignent de la République, pour fermer des écoles parfois qui s'éloignent de la République, pour repérer des situations qui demandent des interventions de l'autorité et des forces de l'ordre. Donc on a fait tout ce travail-là dans beaucoup d'endroits de France qui étaient particulièrement touchés. Ce n'est pas public parce qu'on considère que si ça l'est, c'est moins efficace.
Vous voulez dire qu'il faut dire quand on ferme des mosquées ?
Je pense qu'il faut, il faut expliquer aux Français comment nous travaillons. C'est le travail des préfets, c'est le travail d'un certain nombre d'acteurs de terrain qui repèrent. Vous savez, moi, en tant que député, c'est des choses que j'ai vues, auxquelles j'ai participé, pour que nous puissions être très clairs sur le fait que nous avons tous la liberté de croire et de ne pas croire. Nous avons tous la liberté dans l'espace public d'avoir une forme de posture individuelle, mais nous devons être intraitables contre ceux qui organisent des mouvements ou des structures qui éloignent les Français, en particulier les enfants, de la République.
Mais précisément, le chef de l'État fait du communautarisme sa priorité, c'est du moins ce qu'il a déclaré effectivement à nos confrères de RTL. Écoutons-le parce qu'il parle de pratiques effectivement dans les services publics.
Ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est véritablement, en éducation, la santé, le travail, les différents services publics, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire avoir des mesures d'interdiction, dissoudre parfois certaines associations encore davantage, interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République.
Alors quelles sont ces pratiques qui sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République ? Et puis, est-ce que ça introduit pas une société, finalement, du soupçon ?
Moi, je préfère les termes du président qui sont associés à la vigilance. Nous devons tous nous assurer que les lois de la République, auxquelles nous sommes tous attachés, s'appliquent bien partout et par tous. Ça peut concerner l'égalité homme-femme, ça peut concerner, vous voyez par exemple, l'apprentissage de ce qu'on dit les théories darwinistes. Au fond, la relation à la science, la relation aux faits scientifiques, ce sont des choses sur lesquelles nous devons être intraitable. Tout le plan que mène Jean-Michel Blanquer justement pour la prévention à la fois de la radicalisation, mais aussi le fait que nous avons des principes forts dans toutes les écoles et que tous les sujets doivent être abordés et doivent pouvoir être abordés.
Sur Darwin, pour être très clair, ceux qui remettent en cause Darwin, pour vous, qu'est-ce qu'on fait ?
Non mais c'est un fait connu. Mmh. Vous avez dans le monde des gens qui considèrent qu'ils sont des créationnistes et que donc toute la théorie d'évolution n'existe pas. Bon, ben, c'est quand même quelque chose de grave parce que d'abord, ça remet en cause des fondements de notre science. Et puis surtout, il faut s'assurer que dans toutes les écoles de France, on puisse bien apprendre la théorie de l'évolution. Ce sont des choses qui sont repérées par le ministère de l'Éducation et sur lesquelles nous devons, là aussi, être extrêmement vigilants pour que aucun enseignant ne se sente fragilisé ou contesté quand il ouvre le manuel, vous voyez, de sciences de la vie de la Terre.
Il y a un risque quand même de stigmatisation. Plusieurs centaines de personnes ont défilé hier à Paris. Effectivement, le président de la République souhaite éviter les amalgames entre ces différentes questions, mais on a l'impression quand même qu'il y a une interrogation pesante sur les Français.
C'est bien parce qu'on ne veut pas ni stigmatiser, ni créer des amalgames que nous voulons être très clairs sur le fait que chacun, dans notre pays, par la loi 1905, a le droit d'avoir la religion qui est la sienne. Et c'est un principe très fort. Donc, chacun a la liberté qui lui est conférée par cette loi. Mais à partir du moment où l'argument religieux devient un argument politique, alors là, nous sommes en dehors de la loi, et là, la République doit pouvoir se protéger. Donc, c'est à la fois, c'est très clair, mais je pense qu'il faut qu'on reprenne bien. Il y a des sujets qui sont d'ordre individuel. Ce que chacun croit, ne croit pas, pratique comme religion. C'est une liberté, parce que nous avons cette liberté de conscience en France. Et nous avons en face des principes de la République qui sont très clairs pour nous expliquer que la religion ne doit pas devenir un argument politique, ne doit pas entrer dans l'espace politique. Et c'est là qu'un combat doit être mené, et c'est là que, vous l'avez bien compris, le président était, avec l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des forces publiques, l'ensemble des administrations, totalement mobilisées.
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, était ce matin, et je le remercie, l'invité de France Info Radio et Télé, réunis comme chaque matin entre 8h30 et 9h.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.